Turning today to the first letter of John, chapter 5 and verse 14.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin dans la première épître de Jean au chapitre 5 et au verset 14. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Et la confiance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et notre sujet ce matin, c'est la prière, contenu et manière. Et alors que nous considérons la fin de cette première épître de Jean, nous sommes passés du contraste entre l'incrédulité et la foi, et nous en arrivons à la prière. Et la confiance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et pour introduire, nous avons ce terme « confiance ». C'est là la confiance que nous avons en lui. Et ce terme ici, utilisé, signifie l'assurance que nous avons, ou la liberté inconditionnelle, l'assurance. Nous n'avons pas peur alors que nous prions, nous ne tremblons pas. Oh, est-ce que Dieu ne va pas nous entendre? Et si notre prière n'est pas acceptable, est-ce que Dieu ne va pas entendre nos prières? Les prières de ses enfants, non, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de difficulté. Et à moins qu'il y ait du péché, Dieu va nous accepter. Et nous avons cette confiance, cette assurance, cette certitude qu'il va entendre nos prières, que nous pouvons venir devant lui dans la prière, qu'il est prêt à entendre nos prières et à bénir. Et la confiance, cette assurance est basée sur la promesse de Dieu, les promesses de Dieu dans sa parole, est basée sur l'expérience du croyant qui a tant de réponses à ses prières. Ainsi, ce terme confiance, assurance, c'est là la confiance que nous avons en lui. Le chrétien né de nouveau, qui a réellement trouvé le Seigneur, peut prier avec certitude. Mais j'aimerais en arriver directement au sujet ici. Si nous demandons quelque chose, c'est là notre premier point. Simplement, si nous demandons, si nous ne demandons pas, de ne pas demander, ceci est si fréquent pour nous, même en tant que chrétiens. Nous lisons dans la lettre de Jacques, « Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. » Si nous demandons, ainsi nous commençons en soulignant la nécessité absolue de la prière. Dieu a ordonné, commandé et établi que ses enfants prient et demandent leur bénédiction, leur bienfait. Et c'est nécessaire. Le fait que nous devons demander à Dieu et nous devons l'invoquer, nous devons prier, ceci imprime clairement dans notre esprit, dans notre cœur, que lui est la seule source de toute puissance, de toute bénédiction, de toute force, de toute bonne chose. Ainsi, la prière est essentielle. Si nous n'avions pas besoin de prier, alors nous aurions confiance en nous-mêmes et nous aurions cette confiance en nous-mêmes et nous prendrions toutes nos bénédictions comme étant dues et nous ne serions jamais profondément convaincus que seul Dieu est la source de toute bénédiction et de toute chose. Ainsi, Dieu a institué que nous devons invoquer et plaider et prier pour tous nos besoins. Ceci souligne que Dieu seul est la source de toute bonne chose. Ceci nous amène constamment, nous conduit à chercher la communion avec lui et à le louer et à prier et à nous confier en lui. Sinon, nous n'apprendrions pas à nous confier en lui si nous n'avions pas besoin de demander et parfois d'attendre et de croire en lui et d'apprendre toujours plus à nous confier en lui. La prière est ce qui nous conduit, c'est le moteur de notre confiance dans le Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur veut que nous prions. Ceci nous garde également dans certaines conditions, parce qu'il y a des conditions pour la bénédiction dans la vie chrétienne. Et Si nous n'avions pas besoin de prier, alors probablement nous serions très insouciants et négligents par rapport aux conditions, par exemple la sainteté, la sanctification, etc. Mais constamment, nous devons revenir à Dieu et ceci nous rappelle constamment les conditions pour venir à lui. Et ceci nous amène constamment à nous souvenir de lui dans la reconnaissance, dans la louange. Parce que si nous ne devions pas prier, alors probablement nous serions ceux qui échouent très rapidement. La prière est quelque chose de très humble. Oh, peut-être que vous imaginez que vous avez des dons, mais vous ne recevez rien sans la prière. Ceci nous humilie et nous dépendons entièrement de lui. Peut-être que vous avez certaines capacités, peut-être que vous êtes très élégant et vous êtes très confiant en vous-même dans le témoignage pour Christ, mais aucun témoignage n'est jamais béni sans lui. Ainsi, vous réalisez que vous dépendez entièrement de lui. La prière est essentielle en toute chose. Si, c'est un grand si dans ce texte, si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, il nous exauce. Ceci nous amène à un deuxième point, selon sa volonté. Oh, vous dites, oh pasteur, c'est là la chose qui est importante, selon sa volonté. Oh, le secret de la prière, et certaines personnes nous disent ceci, mais c'est une erreur, que le secret de la prière, c'est de trouver quelle est sa volonté. Et alors, vous pouvez prier selon sa volonté, et il répondra à vos prières. Et certaines personnes enseignent ce genre de choses, mais c'est très superficiel, et vous trouvez ça sur Internet. Vous trouvez, oh, c'est là le secret pour avoir une réponse à nos prières que de connaître la volonté de Dieu. Mais vous ne pouvez pas lire ce passage en comprenant ces choses ainsi. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Il y a deux significations à ces paroles selon sa volonté. D'abord, ceci nous rappelle que Dieu est souverain et suprême. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous pouvons prier et que nous pouvons demander de manière légitime. Mais la réponse du Seigneur n'est parfois pas exactement ce que nous demandons, parfois complètement différent de ce que nous demandons. Sa volonté est souveraine au final. Il est Dieu. Ce n'est pas un avertissement qui dit « Essayez de ne pas prier pour les choses que le Seigneur ne veut pas, mais priez pour toutes choses pour lesquels il vous dit de prier, et vous avez cette confiance que toute réponse sera selon la volonté de Dieu. C'est un réconfort pour nous. Est-ce possible? Oui, c'est légitime que de prier pour ceci, pour cela, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Oui, il est bon de prier pour ces choses. Imaginez que ce n'est pas la bonne chose. Selon sa volonté, il est souverain. Si vous ne priez pas, alors la volonté de Dieu, très probablement, c'est que vous n'aurez aucune réponse parce que vous n'avez pas prié. Ainsi, alors que vous êtes affairé à essayer de trouver la volonté de Dieu, vous ne priez pas pour les choses pour lesquelles vous devriez prier et vous ne recevez aucune réponse. Mais vous priez. J'illustre ceci. Dans cette église, au début de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des bombardements qui ont commencé. Et dans ce quartier, il y avait beaucoup de bombardements. Les rues à l'arrière de ce bâtiment et de l'autre côté, toute la rue était complètement détruite. Et la nuit d'après, l'autre côté de la rue. Et les gens étaient là, qui étaient dans ces maisons, étaient à l'abri, dans leur abri. Et ces abris étaient construits dans les rues. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Les gens au tabernacle, il n'y avait pas beaucoup de gens à cause de la guerre. Là où il y a maintenant le centre de loisirs, il y avait notre institut biblique. Avant la guerre, c'était utilisé pour l'école du dimanche. Il y avait presque 2000 enfants dans cette école du dimanche qui se rassemblaient. Des enfants et des jeunes gens, mais ils ont tous été évacués à cause de la guerre quand elle a commencé. Plus d'enfants aux alentours. Le bâtiment n'était plus utilisé pour l'école du dimanche. Il a été réquisitionné par les autorités et c'était le quartier général des ambulances et des pompiers à ce moment-là, réquisitionné par le gouvernement et on ne l'a jamais récupéré. Bref, j'en reviens à mon point. L'Église a prié pour qu'elle ne soit pas bombardée. Elle a été touchée par les bombes, par plusieurs impacts qui sont passés par les fenêtres, par le toit. Et les témoins ont dit qu'il y avait un feu pendant des heures et des heures. Et cette nuit-là, il y avait 12 000 rues qui étaient fermées à cause des bombardements. Il n'y avait plus d'eau pour éteindre le feu. Ainsi, l'église est partie en fumée. Est-ce que c'était une réponse aux prières ? Les gens ont prié pour que l'église ne soit pas touchée par les bombes. Oui, mais avec le temps qui passait, vous pouvez réaliser comment Dieu a répondu aux prières. Pourquoi ? Est-ce qu'ils ne voulaient pas que leur église soit touchée par les bombes ? Oh, c'est évident, pour que l'œuvre du Seigneur puisse continuer, pour que les cultes puissent encore avoir lieu, pour que l'église ne ferme pas ses portes, pour que, après que la guerre soit passée, que les enfants puissent être rassemblés à nouveau. Cette partie de la prière, le Seigneur y a répondu. Cette église, quand elle a brûlé, toutes les parties historiques ont été préservées. Le Seigneur a préservé la façade du bâtiment. Et il y avait une raison, également le sous-sol. Et ainsi, ils avaient leur culte dans le sous-sol. Il n'y avait pas des milliers de personnes, mais des centaines de personnes, parce que beaucoup de familles ont été évacuées. Mais les cultes ont continué. Et après la guerre, ils ont érigé un nouveau bâtiment. Et les autorités voulaient entièrement détruire cet endroit. Mais ils ne pouvaient pas. Pourquoi ? Parce que le Seigneur a gardé la façade, la partie la plus historique, et également le sous-sol. Ainsi, les autorités ne pouvaient rien faire. Et ils nous ont laissés là, avec notre site, notre bâtiment. Et la manière par laquelle le Seigneur a permis que cette église soit touchée pendant la guerre, ceci a préservé son endroit et l'œuvre malgré toutes ces pressions. Et même, nous avons eu un nouveau bâtiment. Et dans les années 70, plus d'un des pasteurs du centre de Londres nous a dit « Oh, vous avez eu de la chance d'avoir été touché par les bombes. » Le Seigneur répond toujours aux prières. Il a préservé notre endroit de culte. Il a eu sa manière de préserver le bâtiment et l'œuvre jusqu'à ce jour. Oh, c'est une longue illustration, mais sans prière, je suggère que le bâtiment aurait été complètement détruit. Et les gens également n'auraient jamais recommencé l'église. Elle aurait été complètement éteinte. Parce que plus de la moitié des églises du centre de Londres ont cessé à cause de la guerre. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Si nous n'avions pas prié, si la congrégation de cette époque n'avait pas prié, alors peut-être que nous n'existerions pas aujourd'hui. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Ils ont demandé, et même s'il semblait que le Seigneur n'a pas répondu à leur prière, mais vous pouvez voir, en regardant en arrière de nos jours, que le Seigneur a répondu. Et la confiance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Il répond d'une manière parfaite à nos prières. Il nous exauce. Et j'aimerais parler pendant un moment sur le contenu de la prière. Pourquoi est-ce que nous devons prier ? Pour quelle chose devons-nous prier ? Parce que selon sa volonté, ceci ne parle pas simplement de sa souveraineté, mais également de ses instructions pour la prière. Si nous prions selon sa volonté, c'est que nous prions pour toutes sortes de choses. Les Écritures nous parle du contenu de la prière. Ainsi, ô jeunes gens, faites bien attention où vous allez pour recevoir des informations sur la prière. Il y a toutes sortes de sites internet. Et il y a des prédicateurs qui sont bons et saints sur internet, et capables et efficaces. Mais il y a également beaucoup de sites internet, en particulier sur les réseaux sociaux, qui sont si superficiels et il parle de non-sens en ce qui concerne de conseils spirituels et la prière. Ils ne sont pas opérés par des gens qui ont été appelés par Dieu, qui ont été mis à part par leur Église pour prêcher la parole, mais ce sont des gens qui se sont mis en avant eux-mêmes, qui ont décidé par eux-mêmes, avec leur propre égoïsme, qu'ils allaient faire leur propre église avec leurs réseaux sociaux et ne sont pas appelés par le Seigneur pour être pasteur. Et ce genre de sites vont vous dire toutes sortes de choses superficielles par rapport à la prière. Quelqu'un vient et vous dit « Oh pasteur, j'ai vu ceci sur Internet, que la prière est facile. Il y a 3 réponses aux prières. Oui, non et attends. » Oh, c'est quelque chose de si superficiel que vous trouvez sur ce genre de site Internet. La souveraineté de Dieu, ce que Dieu veut, c'est « Est-ce que ceci est bon pour vous ou est-ce que ceci est bon pour quelqu'un d'autre ?» Non, ceci est si superficiel. C'est de la sagesse humaine. Ne laissez pas ces choses nourrir votre esprit à la place de l'Écriture. Nous en venons aux Écritures pour les instructions sur la prière. Et c'est là notre prochain point. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, comment est-ce que nous devons prier ? Le pardon des péchés. Est-ce que vous priez pour le pardon des péchés ? Notre plus grand ennemi dans notre marche avec le Seigneur, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Est-ce que nous examinons nos cœurs jour après jour ? Est-ce que nous confessons nos péchés au Seigneur ? Est-ce que nous nous reconsacrons au Seigneur en lui disant que nous allons faire de notre mieux et nous recherchons sa force pour vivre pour lui ? Si nous ne prenons pas ces choses au sérieux, c'est grave. Priez pour le pardon de vos péchés, pour la sanctification et essayez de grandir dans le Seigneur. Ne vous attendez pas à avoir des réponses à d'autres prières si vous ne priez pas pour le pardon des péchés. L'œuvre de Christ également, priez pour cela. Je vais lire Jean chapitre 14 rapidement et je lis au verset 13. Et ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et la pensée est répétée par le Seigneur au chapitre 15 et au verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit soit permanent. Et que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Est-ce que vous connaissez la signification de ces passages ? C'est des promesses de prière données aux apôtres en tout premier, et à nous également, oui, par extension, mais tout particulièrement données aux apôtres, alors qu'ils étaient préparés pour leur œuvre, pour gagner les âmes et pour l'œuvre de l'Évangile durant toute leur vie. En mon nom, cela ne signifie pas simplement que vous priez dans le nom de Christ comme celui qui vous donne cet accès à Dieu, mais cela signifie également que vous priez pour les choses qui sont faites à sa place, pour lui, à sa place, ainsi son œuvre est la première chose pour laquelle nous prions. Je me souviens, il y a bien d'années, je suis allée à une réunion de prière dans une église dans laquelle je parlais ou je participais à quelque chose. Il y avait une réunion de prière. Et quelque chose m'a surpris par rapport à cette réunion de prière. Tout était pour des bénédictions matérielles. Tout était pour eux. Et la première prière était bonne, je ne vais pas la critiquer, mais malheureusement, ceci a dicté le ton de toute la réunion de prière. Je me souviens, c'était pour Jean qui avait mal au genou. Un garçon, un enfant d'un membre de l'église était tombé et il s'est fait mal au genou. C'était là le centre de la réunion de prière. Nos problèmes, nos petits bobos et notre prospérité, notre bienfait. Et j'étais surpris à la fin. L'œuvre du Seigneur n'était pas du tout représentée. Vous auriez pensé que l'Église ne faisait rien pour le Seigneur. Tout d'abord, en priant dans le nom de Christ, cette promesse apostolique qui leur a été donnée pour l'œuvre de leur vie entière, c'est prier pour son œuvre, pour sa cause, pour la proclamation de l'Évangile. Et tout effort qui est mis en avant par l'Église dans le ministère de l'Évangile et dans la proclamation de la parole pour amener les gens à Christ et pour approfondir les croyants. Nous nous rappelons de quoi est-ce que nous prions pour moi, pour nous, pour cette personne, cette autre personne, des choses matérielles uniquement ? Ou est-ce que nous avons cet équilibre ? Est-ce que notre plus grande priorité, notre premier souci, ce sont les choses de Dieu, l'œuvre de Dieu ? C'est là, prier selon sa volonté, en accord avec ce qu'il veut entendre. Ce pourquoi nous devons prier, selon sa volonté. C'est là ce que cela signifie, en grande partie, la souveraineté de Dieu et également honorer ce qu'il requiert de notre part. Ainsi, prier pour les âmes perdues, prier pour d'autres personnes, prier pour la bonne santé. Nous lisons ceci dans l'épître de Jacques, prier l'un pour l'autre, oui. Nous prions pour la connaissance du Seigneur, pour la sagesse. Oh, nous pourrions lire tant de textes, ceci prendrait tout notre temps. Le psaume le plus long de la Bible, le psaume 119, parle principalement, peut-être 70%, 80%. C'est une prière répétée et soulignée pour la connaissance de Dieu, pour connaître Dieu, pour connaître ses doctrines, ses chemins et ses préceptes, ses commandements, pour l'amour pour ses commandements. Une prière pour entendre et écouter Dieu. Est-ce que vous priez pour la connaissance ? Le psaume 119, lisez-le. Qui a écrit ce psaume ? Probablement David. Certains disent que c'est Ézéchias. Peu importe qui a écrit ce psaume. La connaissance, ce serviteur de Dieu a faim et soif de la connaissance de Dieu, c'est là ce qui est important. Est-ce que nous prions pour la connaissance de Dieu ? Et nous ne venons jamais à l'étude biblique. Oh, ceci est bizarre. Est-ce que nous prenons notre prière au sérieux ? Est-ce que vous voulez vraiment que votre connaissance des doctrines, des Écritures augmente et des chemins de Dieu ? D'être approfondi ? Oui, également. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous prions pour nos besoins dans notre corps. Et l'apôtre Paul dit constamment « Priez pour moi ». Et lui-même, il prie également pour être fortifié, pour être soutenu. Nous admirons l'apôtre Paul, sa ténacité, ses initiatives, son œuvre constante pour le Seigneur. Mais lui-même, il plaidait constamment devant le Seigneur pour la force, pour la bénédiction du Seigneur, pour son aide, et nous devons faire de même, lui remettre toutes choses. Nous prions pour les persécutés également, comme si nous étions liés avec eux. Nous dit la lettre aux Hébreux, nous devons prier pour eux avec tant de sympathie, tant de compassion, en aspirant qu'ils soient aidés et que le Seigneur soit avec eux. Est-ce que je me souviens de toutes ces choses, ou est-ce que je prie pour simplement certaines choses qui me concernent moi, qui concerne les gens qui sont tout près de moi et mes circonstances toutes proches. Mais selon sa volonté, ceci me donne toute une liste de prières pour l'œuvre de l'Évangile, pour d'autres personnes, pour les malades, pour les persécutés. Est-ce que j'ai écrit tout ceci sur un bout de papier à la fin de ma Bible ? Et ainsi, si je n'ai plus ceci à l'esprit, alors je reprends ma liste. C'est là mon programme de prière, ma liste de prières. Et j'amène ces choses devant le Seigneur dans la prière. Le Seigneur veut entendre toutes ces choses de notre part, non pas simplement une petite partie de ce pourquoi nous devons prier. Je dis ces choses parce que c'est là ce qui va nous aider à expérimenter le Seigneur, à l'invoquer et à recevoir sa bénédiction. Souvenez-vous de certains de ces grands principes. Et j'en arrive à un autre point, alors que je continue rapidement. Non pas simplement le contenu de la prière, mais la manière de prier également. La manière par laquelle nous prions, selon sa volonté, est également une règle clé. Si je veux avoir des réponses à mes prières, alors je veux prier de la bonne manière. Quelle est la bonne manière de prier ? Tout d'abord, l'adoration. La prière doit adorer le Seigneur. Ceci ne peut pas s'appliquer à toutes les prières, parce qu'il y a des prières d'urgence également. Quelque chose se passe et vous invoquez le Seigneur directement, en urgence, pour cette chose particulière. Mais dès que nous pouvons, et dès que possible, l'adoration devrait être la première chose de notre prière. J'aimerais lire dans Actes chapitre 4, c'est là un exemple de ceci. Nous pourrions lire tant de passages, mais Actes chapitre 4, verset 23. Après qu'on les eut relâchés, c'est là les disciples, au tout début de l'Église, Pierre et Jean ont été arrêtés parce qu'ils ont guéri un homme d'une manière remarquable et parce qu'ils ont prêché l'Évangile, bien sûr. Et ils ont été menacés et à présent, ils sont relâchés. La persécution est arrivée, elle va venir. Les dirigeants ont un avertissement. Et après qu'on les eut relâchés, ils vinrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces chrétiens qui se rassemblent? Oh, vous pensez que c'est une urgence là? Et ils auraient simplement dit « Seigneur, garde-nous de la persécution, interviens pour nous ». Mais ils ont appris la manière de prier. Quand ils ont entendu cela, ils élevèrent d'un commun accord leur voix à Dieu et dirent « Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre et la mer et toutes les choses qui y sont ». Certains d'entre nous, aujourd'hui, si nous avions été à cette réunion de prière, nous aurions dit « Oh, allez, apôtre, allez directement dans le sujet, parce que nous sommes menacés, là, ce n'est pas un culte d'adoration. » Mais c'était d'abord l'adoration. Et qui a dit par la bouche de David, ton serviteur, « Pourquoi les nations sont-elles en rumeur ? » Il y aura la persécution. Une affirmation d'une grande doctrine que la vérité sera suivie de la persécution. Et vous voyez ceci si souvent, et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? L'adoration, c'est ce qui commence toute prière. Et dans Éphésiens, il y a un grand exemple de cela. L'apôtre Paul va prier pour les Éphésiens. Il commence réellement au début de ce livre, mais il ne dit pas une seule parole de prière pour eux avant la moitié du chapitre 3. Parce que tout d'abord, il loue le Seigneur, il l'adore et il affirme les doctrines, qu'il déclare les doctrines. Il a ce grand préambule à sa prière avec l'adoration et la déclaration des doctrines de l'Écriture. C'est là la manière de prier. N'oubliez pas d'adorer Dieu, de le louer, de le remercier. N'oubliez pas de vous émerveiller devant lui, de nommer ses attributs, de vous émerveillez devant lui, de le louer, de le remercier pour les réponses aux prières qu'il nous a données dans le passé et pour le salut et déclarer ses grandes doctrines devant lui. Au Seigneur, je crois en ceci, je crois en cela. Et ensuite, vous en arrivez au sujet. C'est là la manière de prier. Celui qui prie, écoutez, selon sa volonté. Certaines personnes, comme je l'ai dit auparavant, disent « Oh, je dois essayer de trouver quelle est sa volonté ». Non, selon ses instructions, ce qu'il nous dit par rapport à la prière, c'est là sa volonté et sa souveraineté également. Vous priez selon sa manière, les exemples de l'Écriture, les précédents de l'Écriture, et ainsi nos prières, le Seigneur va y répondre et va les entendre avec adoration, avec gratitude, avec affirmation, déclaration des doctrines et avec repentance. Nous avons mentionné ceci auparavant. Non pas comme Ésaü, qui n'a pas trouvé la repentance, même s'il l'a recherchée, même avec larmes, mais il cherchait la bénédiction de Dieu, mais il ne s'est pas repenti ainsi et il n'a pas eu de réponse à ses prières. Pas comme Ésaü, qui n'a pas trouvé la repentance. « Oh, pasteur, le Seigneur n'a pas répondu à ma prière. » Peut-être que la réponse est la suivante. « Parce qu'il n'a pas trouvé la repentance. » Selon la volonté de Dieu, c'est ainsi que nous devons prier. « Oh, examinons nos péchés, nos fautes, et cherchons le Seigneur, l'aide du Seigneur dans la sainteté. » Et ainsi, nous prions également avec humilité. N'apprenez pas comment prier de l'un de ces prédicateurs sur les programmes télévisés. Vous voyez comment ces prédicateurs de la prospérité, ces guérisseurs prient. Oh, ils sont pleins de vanité, pleins d'orgueil, pleins d'autorité. Et ils disent au Seigneur exactement ce qu'il doit faire. Combien de fois l'Écriture dit que le Seigneur résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux humbles. Nous avons lu ceci dans notre lecture de la parole de Dieu dans Jacques 3 et 4. La prière est humble, elle ne dicte pas au Seigneur, elle demande, elle plaide, elle supplie, mais elle ne dit pas au Seigneur ce qu'il doit faire. Parce que ceci est un signe sûr que cette personne n'a pas de communion avec le Seigneur, cette personne n'a jamais réalisé la grandeur de Dieu, n'a pas ce sens réel de qui est Dieu. Si cette personne pense que Dieu peut être poussé et on peut lui commander des choses, comme si Dieu avait livré ces gens à leur mauvaise manière de prier, à leur orgueil. Oh, j'ai lu un jour un livre par rapport à l'expédition romaine qui venait dans ce pays. Et l'Église de l'époque, pour savoir si une personne était sauvée ou non, a décidé que si cette personne se met debout, cette personne est orgueilleuse et n'est pas un chrétien. Si cette personne s'assied pour nous parler, alors cette personne est humble. Il y a peut-être quelque chose de vrai en cela. Mais ces prédicateurs à la télévision, vous voyez qu'ils ne sont pas réellement sauvés. Quelqu'un qui a un autre style de prière, qui n'est pas humble. Mais nous devons être humbles dans la prière, ceci est essentiel. Non pas être avare et égoïste. La foi, bien sûr, est importante. Nous pourrions lire dans Jacques 1, il y a beaucoup de choses dans la lettre de Jacques par rapport à la prière, en ne doutant pas quand vous priez, mais vous croyez dans la toute-puissance de Dieu. La prière de la foi, cela ne signifie pas que vous priez de manière à ce que vous vous convainquez vous-même que Dieu va répondre. Non, la prière de foi, c'est simplement la prière qui dit « Si ceci est la volonté de Dieu, il peut le faire et je le crois de tout mon cœur. » Certaines personnes pensent que, oh oui, vous devez prier la prière de la foi, vous devez vous convaincre vous-même que Dieu va le faire. Non, ceci est un non-sens. C'est un non-sens piétiste. Votre responsabilité, c'est de croire de tout votre cœur que si c'est la volonté de Dieu, il peut le faire. C'est là notre responsabilité. Vous ne pouvez pas vous convaincre de quelque chose ou interférer avec la souveraineté de Dieu. Et prier de tout votre cœur avec consécration et service. Certaines personnes, j'ai bien peur, prient. Mais ils ne font jamais rien pour le Seigneur. Ils ne réalisent pas que faire quelque chose pour le Seigneur, des bonnes choses, et servir dans l'Église, c'est une bonne condition pour la prière. Parce que la signification d'un des termes du Nouveau Testament pour la prière, c'est ceci. En grec, traduit par prière, c'est mendier. Mais ce terme mendier en grec, ceci vient du verbe lier, se donner. Et l'idée, c'est de mendier et de lier, se donner. En d'autres termes, à l'époque, c'est quelqu'un mendier et qu'il allait sur ses genoux pour plaider pour l'aide de quelqu'un. Dans cet acte, il se donnait à vous. Il disait, je suis à votre disposition, je vais faire tout ce que vous voulez. C'est là ce que cela signifiait que de mendier à l'époque. C'est se donner, se consacrer à quelqu'un, être disponible. C'est là l'un des termes pour prier dans le Nouveau Testament. D'autres termes, chaque fois que vous priez, que vous mendiez, vous vous consacrez au Seigneur. Si vous priez pour le pardon, vous vous consacrez au Seigneur et vous lui promettez de faire mieux. Si vous priez pour quelque chose, vous vous donnez dans le service du Seigneur. Comment est-ce que vous pouvez prier sans jamais rien faire pour le Seigneur? Sans avoir aucun service pour le Seigneur dans l'Église ou en tant qu'individu, sans faire de bonnes choses pour sa gloire, alors qu'il vous commande de faire ceci. La prière, c'est mendier et se donner. C'est là le sens de l'un de ces grands termes, prier dans le Nouveau Testament. Ainsi, c'est une condition pour la prière, la consécration, le service. Une autre condition pour la prière, certaines personnes ne comprennent pas cela et c'est bien triste, c'est l'harmonie dans le mariage. L'harmonie dans le mariage, ceci est décrit dans beaucoup de textes comme condition pour que le Seigneur entende vos prières, en particulier dans 1 Pierre chapitre 3. Et vous pouvez vous souvenir de ceci au verset 7. Marie, de même, et ceci s'adresse également aux femmes, conduisez-vous avec sagesse envers vos femmes comme envers un être plus faible en lui rendant honneur. Avec sagesse, beaucoup de compréhension, de douceur, de patience. En lui rendant honneur, puisqu'elles hériteront avec vous de la grâce, de la vie, à moins qu'il y ait un problème tragique dans la maison et qu'il y ait l'un des époux qui n'est pas converti ou quelque chose de ce genre. Parce que vous héritez ensemble de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient point entravées. Est-ce qu'il y a quelqu'un présent ici? Et ces prières sont entravées. Et le Seigneur n'entend pas ces prières parce qu'il n'y a pas d'amour dans le mariage, pas d'unité dans le mariage, de douceur, de compréhension dans l'une des directions ou dans l'autre. Selon la volonté de Dieu, ceci inclut l'harmonie, l'unité dans le mariage. C'est une condition pour la prière. Et ensuite, également la persévérance. Priez sans cesse. Notre temps est passé. Est-ce que vous priez sans cesse? Est-ce que vous voulez bien être patient? Priez en étudiant le Seigneur, en étudiant la parole. Cette prière dans Éphésiens chapitre 3 par l'apôtre Paul, c'est comme le moment ultime de cette prière, que vous puissiez comprendre et réaliser, être rempli de toute la connaissance de Dieu, que vous puissiez apprendre de Dieu quand vous priez. Ceci, je l'ai mentionné auparavant, vous priez pour la connaissance, c'est une condition de la prière, ceci fait partie de cela. Vous ne pouvez pas dire vous avez la bénédiction, mais pas la connaissance. Je veux la bénédiction, mais pas l'unité dans le mariage, je veux la bénédiction, mais je ne veux rien faire pour l'œuvre du Seigneur ou prier pour son œuvre. Non, toutes ces choses, c'est là la liste de prières de Dieu selon sa volonté. J'allais considérer l'exception de la prière qui est également dans ce passage, mais je n'ai pas le temps pour cela. Mais ce que je vais faire, c'est vous donner un dernier point par rapport à ce qui est là au verset 16, quelque chose qui est très précieux. Si quelqu'un voit son frère pécher d'un péché qui ne mène point à la mort, ceci correspond à tout le monde sauf au pécheur qui ne peut pas être pardonné. Écoutez ces paroles et Dieu lui accordera la vie de ceux qui ne commettent pas un péché qui mène à la mort. Est-ce que vous comprenez cela? Il demandera, vous êtes celui qui intercède et vous demandez la restauration de quelqu'un qui est rétrograde ou pour la guérison d'une personne ou pour quoi que ce soit que vous pouvez demander d'une manière légitime. Il demandera à celui qui intercède et Dieu lui accordera à lui, qui est lui, lui accordera la vie de ceux qui ne commettent pas un péché qui mène à la mort. Vous savez qui est ce lui? C'est vous, celui qui intercède. Il demandera et Dieu lui accordera à celui qui intercède la vie à ceux qui ne commettent pas un péché qui mène à la mort. Dieu vous donnera à vous la vie. Bien sûr, il ne va pas vous donner la vie parce que vous l'avez déjà reçue. Il ne va pas vous donner la vie pour que vous la donniez à la personne pour qui vous priez. Quand il dit cela, cela signifie qu'il va vous donner la réponse à votre prière. Et la vie sera donnée à la personne pour qui vous priez. Mais quelle belle manière que de dire cela. Dieu va vous donner à la personne qui prie. La vie, en d'autres termes, la vie qui est donnée à la personne pour qui vous priez, ce nouveau départ, cette nouvelle bénédiction est donnée à cause de vous parce que vous avez prié. Dieu l'a donnée à cette personne parce qu'il veut que vous ayez une réponse à votre prière. Les traductions modernes n'ont pas ce sens. Si vous lisez une traduction moderne, avec seulement une ou deux exceptions, ils changent ce verset et ils disent quelque chose du genre « Dieu donnera la vie à ceux qui ne pêchent point ». Ils ne veulent pas dire cette chose profonde. Ils pensent qu'en grec, c'est une mauvaise expression. Mais toutes les traductions anciennes suivent le grec original fidèlement. Si vous priez, si c'est bien sûr la volonté de Dieu, Dieu vous donnera la vie. Vous avez également ceci dans la lettre de Jacques, quelle chose merveilleuse, que Dieu répondra à vos prières parce qu'il veut répondre à votre prière et parce que vous l'avez invoqué, et il va vous bénir, vous, avec une réponse à votre prière qui est la vie pour celui pour qui vous priez. Celui qui prie, la personne qui prie, est une personne qui a un privilège immense.